Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est le NRV, le magazine de la bonne soirée à deux vitesses, ou bien dès 18h en avant-première et en podcast, ou bien 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Magazine à deux vitesses, certes, mais aussi en deux temps. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, c'est la laïcité. Offensive des pro-burkini dans les piscines, le planning familial qui renoncerait à la laïcité dans sa prochaine charte, crispation de la FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. La laïcité serait en danger, alors qui pour la sauver? Mais est-elle réellement menacée, Christophe Bourseiller?
C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, c'est un peu le thème
de ce débat ce soir,
que nous avons, ouais. Oui, que nous avons élaboré vous et moi au terme d'un atelier très long de création, de co-création. Donc laïque, c'est fini. En pensant à Capri, c'est fini. La ville de nos premiers amours. Les laïcs sont-ils passés à droite? C'est aussi la question, une autre façon de formuler la question. Et puis alors plus original, la laïcité à voile ou à vapeur?
Ça c'était pas mal. Ouais. Voyez, ça c'était la dernière étape de la réflexion.
C'était pas mal. Oui.
On va calmer le jeu avec la musique. Je compte sur vous, Marion Guilbeault, ce soir. Pour finir la semaine.
Pour finir la semaine, c'est Aja, c'est le nouveau projet de Clémence. Clémence, chanteuse en vacances marocaine du groupe La Femme, elle va être en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. France Inter, plus de jazz ce soir. Dernier épisode de la série Give Me Jazz de Guy Vanctil. Notre voyage aux États-Unis va se terminer à New York. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant cet éditorial que tout le monde attend, Christophe Bourseiller, je vous présente nos invités, les vôtres et les nôtres. Jeannette Bougrat, vous êtes ex-secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. Vous êtes essayiste et l'auteur de « Lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent ». Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-François Colosimo, vous êtes historien, théologien, éditeur. Vous signez « La religion française, 1000 ans de laïcité » aux éditions du CERF. Pareil d'ailleurs que pour le livre de Jeannette Bougrab. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Raphaël Laugier, vous êtes philosophe.
Laugier.
J'ai oublié un « i ». Vous êtes philosophe, auteur du manifeste métaphysique. Ça vient de sortir aux éditions des Liens qui libèrent. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et enfin, Willy Pelletier, coordinateur de la Fondation Copernic. Dernier ouvrage paru, c'est « Manuel indocile de sciences sociales pour savoir résistant ». Savoir résistant, c'est au pluriel. C'est aux éditions La Découverte. Bonsoir, Willy
Pelletier. Bonsoir.
Eh bien voilà, on peut y aller.
Je peux y aller.
Allez, éditorial, c'est parti, Christophe.
Laurent, tout puissant et miséricordieux, que l'idée de laïcité évolue au fil des siècles, qu'elle mute en fonction des époques, rien d'étonnant à cela, Laurent. Il faut être ringard pour penser que la France des années 2020 ressemble trait pour trait, par exemple, à celle des années 1930, de la Troisième République. Et pourtant, les valeurs, nos valeurs de base, sont-elles remises en question, Laurent, au niveau de la substance? En peu de mots commençant, Père Laurent, la laïcité aujourd'hui s'arrête-t-elle là où l'islam commence? Ça, c'est ce que disent les farouches défenseurs de la laïcité. Hier, on les classait à gauche quand ils dénonçaient la puissance de l'Église. Aujourd'hui, quand ils se dressent contre les barbus, on les classe à droite. Et un soupçon s'insinue. Seraient-ils racistes, ceux qui dénoncent les piscines non mixtes et la nature idéologique du voile intégral? Le voile, le voilà. Comment l'appréhender? Comme une simple coiffe folklorique, comparable au chapeau rond des Bretons, ou comme le signe d'une soumission à une religion? Dans le second cas, en quoi le laïc, qui se dresse contre la soumission des femmes à un ordre moral musulman, est-il en quelque sorte passé à droite? Alors Jeannette Bougrab, bienvenue.
Bonsoir.
Jeannette Bougrab, quand la Fédération des conseils de parents d'élèves met en scène une femme voilée pour une récente campagne avec le slogan « Oui, je vais en sortie scolaire », et alors, fait-elle reculer le racisme ou fait-elle reculer la laïcité?
Elle fait sans nul doute reculer la laïcité, mais avant de commencer, la laïcité c'est d'abord un principe qui est consacré dans la Constitution, c'est un principe de droit, c'est un principe qui a été introduit en 1946 au lendemain de la chute de la Troisième République et la fin du régime de Vichy. Il a été repris en 1958, c'est l'article 1er de la Constitution. Sur le principe de laïcité, c'est aussi le principe de neutralité de l'État, des collaborateurs, des agents de l'État. Et en faisant cela, la FCPE ne fait pas que sous l'apparence d'une fraternité fraternité interreligieuse où elle fait, elle sait très bien que les parents qui accompagnent les enfants sur du temps scolaire, je parle du temps scolaire, c'est le temps où les enfants sont à l'école, pas sur les activités après la fin de l'école. Ces parents sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public et donc par conséquent, on leur applique les mêmes règles qu'à des agents de droit public, à savoir que... Et donc c'est un...
Pas véritablement, parce que je sais que le Conseil d'État, par exemple, estime que les parents d'élèves ne sont pas soumis à une neutralité religieuse dans le cadre même où ils interviendraient dans pour des voyages scolaires, par
exemple. Quand ils rentrent, mais là, c'est des activités qui sont pédagogiques, c'est pas une activité qui consiste simplement... Moi, quand je confie mon enfant à l'école, j'attends que les enseignants... j'ai une petite fille qui est dans une école publique, si je souhaitais qu'elle ait un environnement religieux, je la mettrais dans un établissement privé sous contrat. Mais sur du temps, à partir du moment où on demande à des professeurs des écoles de ne pas manifester leur opinion politique, leur appartenance religieuse, il paraît surprenant que d'entre 8h30 et 15h, 16h30, sauf le tel jour où c'est 15h30, des parents puissent se prévaloir d'un signe religieux qui, vous le vouliez ou non, porté d'une certaine manière, est un étendard politique. C'est l'instrumentalisation politique du voile. Et donc, en faisant cela, la FCPE...
Vous n'êtes pas d'accord.
Je sais, on est en binôme la plupart du temps sur ça. Juste pour dire, à la veille d'élections de parents d'élèves, c'est d'abord une démarche électoraliste. La FCPE, il s'est comporté de manière comme un parti politique où certains élus locaux font dans certains quartiers, c'est avoir des signes. On le voit bien au moment des élections locales. On donne de l'argent à des associations. C'est un appel du pied. Et donc après, en tant que parent d'élève, moi j'en tire les conséquences et je ne voterai pas pour la FCPE. Voilà. Et ce qu'ils ont fait à Laurent Bouvet n'est pas non plus d'une très grande élégance.
Oui, Pelletier,
Je ne suis pas persuadé que vous ayez déjà voté pour la FCPE, sans vous le dire.
Bah, s'il y a 8 ans, donc ça fait pas seulement,
j'étais
à l'étranger.
Effectivement, vous passiez chez Sarkozy, mais... je crois que...
Mais c'est pas une injure d'avoir été ministre de la République.
Oui, chacun son point de vue. Ouais, oui. Mais... certains dans les beaux quartiers fantasment le grand remplacement du brushing Masato par le hijab islamiste. Je pense que c'est quand même très hallucinatoire, qu'il faudrait probablement baisser sa dose de LSD parce que on en est très loin. Il faut être prodigieusement indifférent aux différences pour croire que le port d'un fichu sur la tête, ça signifie une adhésion, une soumission, ça c'est un vestige du colonialisme, je dirais, une adhésion, une soumission à une religion barbare. Je crois pour beaucoup des beaux quartiers, des belles âmes, il y a deux voiles, il y a le voile des Qataris et des Saoudiennes qui viennent s'approvisionner en luxe Dior, Chanel, Cartier, Chaumet, et qui ne sont jamais mises en cause.
Vous êtes très au point, Masato, Dior,
Chanel.
Vous êtes
très au point.
Je savais que je venais vous voir.
Le brushing Masato, voilà. Ça, c'est pas mal.
Et alors, on salonne avec leur mari dans l'apothéose réciproque du coffre-fort. Et puis, il y a le voile des pauvres. Alors là, le voile des pauvres, il devient insupportable. Il devient insupportable surtout pour ceux qui ne connaissent aucun ouvrier, aucun employé, aucune femme d'ouvrier ou d'employé, ouvrière ou employée elle-même. Ça devient insupportable parce qu'on voudrait que les pauvres soient invisible, qu'il soit docile, qu'il n'ait pas le mauvais goût de revendiquer une quelconque appartenance culturelle. Je pense que c'est évidemment totalement insupportable.
Mais Willy Pelletier, c'est au-delà de la culture. Par exemple, quand Charlie Hebdo écrit que l'islam n'est pas simplement une religion, mais aussi un parti politique, le voile serait, selon Charlie, son logo. Et l'article ajoute, laisserait-on un parent d'élève accompagner une sortie scolaire avec un t-shirt Rassemblement National?
Mais est-ce que le voile Hermès, c'était le logo de la manif pour tous. Je pense que il y a plein de façons de porter le voile à plein de moments de sa vie.
Je vais répondre à ce que vous posiez comme question. Hein. Cela dit, est-ce qu'on laisserait, quelqu'un aller accompagner les enfants avec un t-shirt Rassemblement National? Je vous répondrai clairement, oui, évidemment,
Non,
parce que tout à fait. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur la laïcité. Je suis désolé de devoir. Vous avez dit le Conseil d'État par exemple. Je suis désolé, c'est pas le Conseil d'État par exemple.
C'est le Conseil d'État.
Le Conseil d'État tout court. C'est-à-dire que le Conseil d'État est la plus haute instance.
Estime que les parents d'élèves ne sont pas soumis à la même neutralité.
Exactement.
Que le
tribunal administratif a donné son avis sur cette question. Son avis sur cette question est un avis très simple, qui est dans la logique de la loi de 1905 et dans la logique même, j'allais dire, du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour remettre en cause les positions, les manifestations religieuses, les manifestations métaphysiques, mais au contraire, on est là pour permettre qu'elles s'expriment le plus librement possible, sans pression. C'est la raison pour laquelle la neutralité est très clairement définie comme étant la neutralité des agents de l'État. Là, en l'occurrence, ce sont des collaborateurs occasionnels, volontaires, non payés. Donc c'est très clair. Moi, je crois que ce qui est en train de se passer, même que cela engendre un débat, est caractéristique d'une pathologie française actuelle, d'une pathologie identitariste française. Il faut s'interroger sur nous-mêmes lorsque on va presque insulter le Conseil d'État. On a entendu même des hommes politiques qui remettaient en cause le Conseil d'État. Manuel Valls, déjà, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur avec l'affaire Babylou. Donc, il faut quand même s'interroger aujourd'hui parce que c'est incompréhensible vu de l'extérieur.
Mais
Jean-François Colosimo.
Bon, d'abord, et ensuite, il y a tout lieu de s'interroger effectivement sur les pratiques actuelles du Conseil d'État qui, depuis 20 ans, est débordé par des questions sur lesquelles il n'a à peu près aucune compétence, qui sont les questions religieuses, questions sur lesquelles, d'ailleurs, la majorité des Français n'ont aucune compétence. Donc ça, je crois que c'est important de le dire, parce que jusqu'en 1989, le Conseil d'État, dans tous ses avis, renvoyait, lorsqu'il tranchait, au principe de laïcité qu'il n'avait jamais à commenter parce que ce principe allait de soi. Donc ça veut dire que depuis 20 ans, ce principe ne va plus de soi.
Et c'est depuis l'affaire des foulards de 1989 dont vous parlez dans votre livre.
Bien sûr, depuis l'affaire de Creil. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est rentré depuis 20 ans, donc dans, ou 30, dans une grande discussion sur ce que c'est que la laïcité. Vous savez très bien que quand on commence à beaucoup discuter d'un sujet, ça veut dire qu'on a perdu l'évidence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, la République n'est pas là, je dirais, pour mettre à mal des mères de famille qui viendraient en foularder ou voiler pour s'occuper de leurs enfants. Et de ce point de vue-là, la République a toujours montré énormément de tolérance et c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a deux phénomènes qui sont assez différents. C'est le voile, une femme qui arrive jeune du Soudan ou plus âgée du Maghreb. Et puis, il y a l'envoilement. Et ça, c'est une politique, l'envoilement. De ce point de vue-là, il est très clair que cet envoilement correspond aussi à la manière dont l'islam, à un niveau planétaire, l'islam sunnite, mais pas simplement, est désormais, en fait, en voie d'adopter, de manière majoritaire dans les pays à majorité musulmane, une version de la charia, qui est en plus une version extrêmement simplifiée, et dans laquelle le voile joue un rôle éminemment politique. Alors dire que tout ça n'existe pas, et en rester à peu près au niveau de la sociologie des beaux quartiers, je crois que c'est simplement ne pas dire les choses. Et le dernier point, c'est que lorsque la fédération s'empare de ce sujet et en fait un signe de combat, elle est très exactement dans une ambition politique qui est de faire figurer les musulmans nécessairement comme les nouveaux damnés de la Terre, et de récupérer surtout une base populaire que cette gauche-là a perdue depuis très longtemps.
Christophe rappelait, en fait, il y a 30 ans, l'affaire de Creil, dans ces établissements, on a eu l'occasion de voir les témoignages de ce proviseur. Il y a 30 ans, je ne crois pas que Zemmour avait quelque chose à voir dans cette affaire-là. Lina a remis, en fait, à l'occasion de cet anniversaire qu'on ne devrait pas célébrer, on se rend compte que ça n'a pas vraiment changé. Le voile et l'école continuent à cristalliser sous un autre angle. Cette fois, c'est plus les élèves, mais les parents. C'est que j'écoutais le témoignage de Gisèle Halimi quand elle décide de quitter SOS Racisme parce que justement, ils ont pris un parti de défendre ce voile face à ce qu'elle disait, un signe d'inégalité. Est-ce que Gisèle Halimi, elle n'a pas été dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous lui tiendrez les mêmes propos que vous me tenez ce soir à moi?
Probablement.
Oui, parce que je trouve ça, Elisabeth,
j'ai beaucoup d'estime pour Gisèle Halimi, pour ma part, énormément d'estime. Mais si vous voulez, ce qu'on ne fait jamais et ce que probablement vous ne faites pas non plus,
en tant qu'arabe, j'aime beaucoup avoir des leçons de morale, et en tant qu'arabe et musulmane, d'avoir des leçons des autres, ça me paraît toujours très surprenant qu'on nous explique comment est l'islam.
Non, mais justement, j'ai néanmoins là-dessus quelque chose à vous dire qui peut-être recevra votre assentiment. À écouter Monsieur Colosimo, l'islam serait ainsi une main broyante et qui serait partout. Vous dites clairement le propos politique de la politique de l'islam.
Non, vous déformerez pas mes propos. Je vous dis simplement, au cas où vous ne connaîtrez pas les chiffres, qu'il y a aujourd'hui une trentaine de pays musulmans qui ont la charia comme loi officielle,
avec
constitutionnelle.
Avec qui on commerce?
Non, mais
avec
attendez.
Qui Sarkozy a gagné beaucoup d'argent?
Mais quel est le rapport? Laissez Sarkozy de côté. Mais deuxièmement, je vous dis que dans les pays musulmans qui considèrent l'islam comme source de leurs droits.
Non, mais ça, je le sais, tout le monde le
sait.
Il
y a beaucoup plus d'entrants que de
sortants.
De la laïcité en France.
On parle de la laïcité.
Mais c'est quoi? C'est une expérience de laboratoire en bocal. La France n'existe pas avec le reste du monde.
Oui, mais l'islam n'est pas au principe de ce
revanche,
que vous nommez.
Mais en revanche, ne m'insultez pas en mettant dans ma bouche des choses sur l'islam que je n'ai pas dites.
Je ne vous insulte pas.
Non, c'est très important.
Je ne vous coupe pas non plus. J'essaie de courtoiser.
Moi, je ne parle pas pour vous. Et je ne dis pas ce que vous pensez pour vous.
Si vous voulez bien, je pense que, il faut avoir cette question en tête. Cet envoilement dont vous parlez, qui est simplement le fait de manifester une appartenance culturelle que l'on revendique, car dans son expérience quotidienne, on est sans cesse discriminé par des contrôles aux faciès en permanence, par des lois à deux vitesses en permanence, sans cesse discriminé lorsqu'on est pauvre et de surcroît issu des communautés musulmanes. Alors, beaucoup de personnes jeunes, souvent, revendiquent de mettre ce voile pour dire « j'ai une dignité culturelle, je la revendique ». Qui cela gêne-t-il? Moi, j'étais, peut-être à la différence de quelques-uns, sur les ronds-points, entre Soissons et Noyon, où il y avait beaucoup d'ailleurs, y compris des lecteurs du Front National, et beaucoup de femmes voilées, dans un très grand respect mutuel. Et on mangeait ensemble des couscous et on écoutait de l'accordéon, on fêtait des anniversaires ensemble. Et même des amours entre des gens qui votaient Front National et des jeunes femmes, y compris voilées, se sont noués. Et donc, on fantasme.
Le rapport, c'est qu'on fantasme
un problème du voile général et générique qui ne se pose pas comme ceci pour les personnes qui mettent à un moment donné de leur existence le voile, qui est une revendication de dignité culturelle, et aussi une revendication de dignité féministe souvent.
Moi, je pense vraiment qu'il faudrait revenir à la question de l'état de droit. La question de l'état de droit et l'état de droit libéral, au sens de Tocqueville, au sens du XVIIIe siècle, c'est une question qui est très simple. C'est-à-dire que on n'interdit pas à des individus de se vêtir comme ils le désirent, de faire ce qu'ils veulent, quand bien même ce serait une revendication politique. Quand bien même ce serait une revendication politique, dire c'est une revendication politique, c'est pas une raison pour interdire. L'espace public, depuis 1789, est un espace d'expression et donc de manifestation, c'est pour ça qu'on manifeste. La seule chose, c'est la seule limite, normalement, c'est l'intégrité physique et morale, l'atteinte à l'intégrité physique et morale, c'est-à-dire l'insulte qui peut porter jusqu'à justement la mise en cause de l'intégrité physique, qui se traduit en droit public français, Jeannette Bougrabe le sait, par ce qu'on appelle l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique. Si cela n'est pas prouvé, on a le droit de se battre dans l'espace public, comme le fait Jean-François Cozio, comme vous le faites, comme le font tout le monde en disant c'est politique, c'est pas politique, il faudrait toute une série de choses. On a le droit de faire, mais on n'a pas le droit d'utiliser l'appareil d'État pour interdire manu militari à des gens de faire ce qu'ils veulent s'il n'est pas prouvé qu'il y a remise en cause de l'ordre public. J'aimerais que ça soit...
Mais pas du tout.
Le débat ne porte que là-dessus.
L'État en France n'est pas libéral, il est républicain. Et c'est un peu différent de ce que vous dites.
Mais non, parce que dans l'affiche en question, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait juste la réaffirmation qu'il était possible pour ces femmes, si elles le désirent, alors qu'un certain nombre de Français ne trouvent pas, pensent que c'est peut-être pas possible parce qu'ils ont une interprétation fallacieuse de la laïcité compte tenu de l'ambiance actuelle, pour leur dire c'est possible, elles ont le droit, donc ne les agressez pas, ne les attaquez. C'est tout ce que ça voulait dire. Donc c'était pas du tout ça.
Mais alors pourquoi on peut débattre sur la fiche de la FCPE, mais il n'empêche que d'aller porter plainte contre un professeur d'université, Laurent Bouvet, cette espèce de systématiquement d'aller devant les tribunaux et pour éventuellement, c'est pas uniquement.
Il les a remplacés par des terroristes, justement, c'est typiquement. Il entrait typiquement.
Zineb El Zahraoui,
ça veut dire, sur des criminels potentiels, c'est ce que ça voulait dire. Bien sûr que si.
Il y a une série de détournements.
Il est dans l'image.
Il y en avait une autre avec Sean Connery qui était en string, enfin avec des bottines, etc. En disant
c'est pas
venez,
exactement pareil. Je vais envoyer les scolaires. Il y avait
aussi une femme qui était en cuir, etc.
Mais c'est pas pareil que de se déguiser en terroriste.
On a le droit de faire de l'humour.
Mais que lorsque là, en l'occurrence, c'est une atteinte à l'intégrité morale parce que ça peut pousser à des gestes physiques contre ces.
On va terminer. termine là le débat pour la première partie, parce que plus personne ne s'écoute, donc les auditeurs ne comprennent plus rien. On va repartir en débat dans quelques instants.
Ça n'est pas caché. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un bleu de Chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un bleu de Chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige.
Les avalanches de Batlick, ça tombe bien, on prend rendez-vous avec lui jeudi prochain en live dans le NRV.
Rendez-vous.
On se baignera, même si les racistes veulent pas, nous on se baignera.
Après avoir payé leur entrée, une petite dizaine de femmes ont enfilé des burkinis dans les cabines, ce maillot de bain qui couvre tout le corps.
Or, dans les piscines publiques, eh bien, il y a des règles sur les tenues qui doivent être utilisées pour venir se baigner.
Le nouveau rendez-vous.
On revendique nos droits civiques et notre liberté comme n'importe quelle femme.
À la fois, il faut que tout le monde puisse se baigner et en même temps, c'est le problème de la place de la religion dans l'espace public, quoi.
Aucune conviction religieuse ne peut venir faire obstacle au respect de ces règles.
Sur France Inter.
Ça se crispe dans les piscines et au-delà dans l'espace public. Ce qu'on vient d'entendre fait directement référence à ce qui s'est passé à Grenoble en juin, à Paris en septembre. Un groupe de femmes qui se changent dans les vestiaires en burkini et qui veulent entrer de force dans la piscine. Faut-il y voir une atteinte forcenée, une atteinte politique au principe de laïcité? On reprend le débat, Christophe Bourseiller.
Oui, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, il y a toute une frange de l'extrême gauche aujourd'hui, une partie de l'extrême gauche qui, finalement, défend le droit des femmes à porter le voile, hein, selon leur expression. Je me souviens d'un slogan qui avait été scandé
lors d'une université d'été du nouveau parti anticapitaliste qui disait trop couverte ou pas assez, c'est aux femmes de décider.
J'y étais,
alors
oui.
Vous y étiez, oui, Willy Pelletier. Alors la religion.
J'en étais très heureux.
Ben je vois bien, mais la religion, je croyais que c'était l'opium du peuple. C'est plus le cas pour
mais
vous.
Mais parce que si vous voulez, le corps des femmes et la façon dont les femmes se vêtent ou pas n'est pas nécessairement empreinte de la religiosité que beaucoup voudraient y injecter. Voilà ce qu'il faut bien voir. Comme je le disais tout à l'heure, oui, le port d'un fichu sur la tête peut être une revendication de dignité culturelle sans être une aliénation à une religion qui par ailleurs peut être tout à fait contestable, comme toute espèce de religion. Oui, le port de tel ou tel attribut à la piscine ou ailleurs peut être une revendication féministe qui consiste à dire « le regard des mecs, je n'en veux pas ». Alors, s'il y a évidemment aujourd'hui un sens commun qui voudrait voir toutes les femmes dénudées et des femmes objets, eh bien effectivement, à l'extrême gauche, mais dans la gauche tout court, il y a un grand nombre de personnes qui considèrent que les femmes ont premièrement le droit à leur liberté, à la liberté de leur corps. C'était le slogan du MLF, « Mon corps m'appartient ». Et il y avait en 68 aussi cette belle formule, « Ne me libérez pas, je m'en charge ».
Jean-François Colosimo.
Oui, enfin...
Pour remettre ça en perspective dans un débat sur la laïcité.
C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, il y a une espèce de manque cognitif en France, en raison de l'éducation reçue, aux faits religieux. Il y aurait des faits religieux qui ne seraient pas politiques. Il y aurait des faits de croyance qui ne seraient pas politiques. Ça arrange évidemment ceux qui, généralement, critiquent la religion et aimeraient bien récupérer l'islam, encore une fois, pour renforcer leur base. Mais la vérité, c'est que toute religion, c'est l'inconscient d'un politique, n'est-ce pas ? Et qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Parce que religion, ça n'a jamais voulu dire croyance. C'est un sens tout à fait récent et très français, médiocre, qui manque l'essentiel. Religuer, c'est ce qui crée du groupe. C'est ce qui crée de la mobilisation. Une religion, elle existe pour dire, il y a nous et eux. Il y a une barrière entre les deux. Et quand il le faut, on fait la guerre au nom de nos principes.
La bourgeoisie est une religion, alors ? Parce qu'elle est bien religuée, quand même, hein ? C'est une classe extrêmement religieuse.
Quand il y a un ordre symbolique, mais si vous avez lu les grands critiques sur la bourgeoisie, vous savez que la bourgeoisie, malheureusement, heureusement pour nous,
elle a tiré le rideau de fer. Hein.
Non, elle ne produit pas de registre symbolique au sens rituel. C'est exactement ce qui la caractérise depuis la réforme.
Ah si, mais elle produit
un registre symbolique. On va faire un débat sur la bourgeoisie, le pouvoir symbolique de la bourgeoisie.
Maintenant, ce qui est tout à fait intéressant, c'est exactement ça. C'est le renversement d'un féminisme d'émancipation pour qui les barrières à franchir étaient tout à fait claires, n'est-ce pas, à un néo-féminisme qui aujourd'hui est devenu, je dirais, d'un ordre quasiment allégorique. Et donc c'est comme ça qu'on peut dire, laissons faire, n'est-ce pas, le burkini à la piscine, par exemple, non pas que moi je tienne à tout prix à l'interdire, à persécuter des gamines qui peuvent agir par provocation, c'est pas ma question, mais dire... Laissons faire parce que elles sont responsables de leur corps. Mais dans ce cas-là, c'est assez simple, je veux dire. Que signifie ce burkini ? Est-il aussi neutre qu'on nous le dit ? Et la réponse, c'est non.
Évidemment, non. Voilà. Raphaël Liogier.
Moi, je nie encore une fois absolument pas l'idée que le burkini puisse être neutre ou pas neutre. Je n'entre pas dans ces considérations. Je pense que ce qui fait une société libérale, encore une fois, au sens du 18e, pas ultra-libérale, hein, c'est la possibilité d'exprimer quoi ? Ces conceptions métaphysiques. C'est pour ça qu'on a écrit manifeste métaphysique. Notre société est en train de mourir aujourd'hui, de son incapacité, de son espèce, sa négation de la dimension métaphysique de l'existence au sens spirituel d'un côté, mais aussi au sens politique. Là, je serais d'accord avec Jean-François Colosimo, j'ai aucun problème avec ça. La politique, au sens le plus profond et le plus noble, est aussi métaphysique, c'est un projet métaphysique. Donc, pour revenir au burkini, très précisément, lorsque des jeunes femmes décident de s'habiller d'une certaine manière pour aller se baigner et que ça ne contrevient pas à la liberté des autres de se baigner de la même manière, je ne suis pas pour l'interdire. La vraie question, c'est pour ça qu'il faut être un peu détaillé pour voir. La vraie question, ça serait la mixité. La mixité, là, je serais effectivement que lorsqu'il y a remise en cause de la mixité, là, je suis pour dire non, stop, qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman. Parce que la question de la mixité, pour moi, c'est la possibilité de s'exprimer dans l'espace public. Et là, ça contrevient aux droits des autres. Mais en ce qui concerne le burkini...
Ça fait partie des 900 signalements pour atteinte à la laïcité constatés par le ministère de l'Éducation nationale depuis avril à juillet.
Le burkini, non. Le scandale qu'il y a eu sur le burkini, c'est des scandales qui n'ont pas lieu d'être.
Comme si le voile était un grand encouragement à la mixité, ce que l'on voit partout où cette pratique est ultra répandue.
Sur
la question du débat sur le burkini, je trouve ça juste affligeant. Voilà, je trouve ça affligeant de penser un seul instant que ce n'est pas un acte de revendication communautaire. Et moi, ce qui m'a rigueur.
Mais ça veut dire quoi, revendication
communautaire? Non. Le vrai sujet, c'est que l'appréhension qu'on a en France dans d'autres, alors que dans d'autres pays musulmans, c'est pas la même chose. Il y a un règlement intérieur dans toutes les piscines. Les hommes doivent être en slip de bain et porter un bonnet de bain. Donc on comprend pas pourquoi, alors qu'on nous a expliqué que je déteste la piscine, donc je me pose même pas la question.
On
se dit que pour des raisons liées à l'hygiène, il y a une tenue à avoir. Alors on nous explique. Alors les gens, ils vont de force. Alors moi, ce qui me surprend le plus, c'est que dans des pays musulmans, c'est interdit. En Algérie, dans certaines piscines, c'est interdit. Et personne va se dire, mais attendez, vous portez atteinte à notre dignité, à notre fait religieux, alors qu'on interdit l'islam. Le deuxième point, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que deux autres choses. Un, c'est qu'on a l'impression que c'est les nouvelles Rosa Parks. De qui fout-on ? Enfin, arrêtez de vous dire que parce qu'on va à la piscine, on va opérer une véritable révolution dans un état de droit, une démocratie. Et le troisième point, moi, ce qui m'a choqué, c'est que des gens qui sont victimes d'oppression dans les pays musulmans, à savoir des gays et trans, soient à côté de femmes qui forcent et qui violent un règlement intérieur qui a été décidé. Alors qu'on sait très bien.
Non, mais c'est quand même une question. Parce que
par rapport à la façon dont on s'habille dans une piscine, pour des questions d'hygiène.
Il y a des tenues qui sont prévues.
Moi, je suis pas pour prendre exemple sur l'Algérie, l'Arabie Saoudite. Ou je ne sais quoi, je ne prends pas position, je suis français, je suis en République française.
Moi je trouve ça très effrayant, voilà. Je vais vous dire le mot, je trouve effrayant. Quand on sait qu'on a parlé beaucoup le signe, s'il y a bien un signe qui est politique, c'est le voile. La première chose que fait Roménie, c'est d'imposer le voile. Aujourd'hui, une femme est détenue en prison parce qu'elle a défendu des femmes qui ne portaient pas le voile. Ne dites pas, parce qu'en France, c'est un signe d'émancipation, les gens sont opprimés. De qui se fout-on? Et de parler en tant que femme et d'origine arabe et musulmane, je me dis qu'on serait sans doute mieux, sans doute ailleurs, parce que si on comptait sur des mecs qui viennent nous expliquer qu'en réalité, vous nous protégez en nous permettant de porter le voile.
Je n'attribue rien à ce signe, justement. Vous y attribuez quelque chose.
Je trouve ça.
Moi, je n'attribue rien à ce signe.
Raphaël Lieugier et ensuite Philippe Pelletier.
Au nom de la neutralité bien comprise, c'est-à-dire la neutralité des représentants de l'État, je n'attribue rien à ce signe. Vous le faites, vous dites c'est un signe qui signifie ça, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai travaillé sur ce que ça signifiait, effectivement, je n'ai pas la même position que vous, mais là, je ne fais pas participer à cette position.
Vous ne projetez absolument rien sur le voile.
Je dis seulement. Comment c'est possible? Est-ce que ça remet en cause? Non, c'est pas comme ça. Est-ce que ça remet en cause les conditions d'hygiène dans la piscine, oui ou non? Si on le justifie...
Dans une piscine oui.
En tout cas, c'est pas dans le règlement.
J'aimerais bien savoir en quoi ça...
Parce que, par exemple, quand on est dans le règlement, on doit être simplement en slip de bain et pas en boxeur dans une piscine, avec un couvre, avec un bonnet de bain. Je vois pas en quoi le burkini pourrait être permis.
Mais dans ce cas, justifions-le de ce point de vue-là.
C'est dans le règlement.
Je ne vois pas. Excusez-moi.
Il y a eu une pétition contre ces actions dans les piscines, vous le savez, qui a été signée par Belinda Cannon, qui a été signée par Pierre-André Taguieff, Nathalie Hennich,
Patrick Peloux,
et qui dit « Il est temps que nos élus prennent clairement leurs responsabilités et légifèrent face au burkini et à ce qu'il représente. La tolérance est une complaisance et pire, une complicité. »
Face au burkini et ce qu'il représente. C'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'on prend position sur ce que cela fait, sur le signe, et pas sur l'objectivité de l'ordre public.
Jean-François Colissimo, et ensuite Willy Pelletier.
Moi, je pense que là, on a un débat qui est assez clair, parce qu'en fait, on ne va pas... Enfin, plutôt que de discuter de savoir quelle est la valeur hygiénique des règlements de piscine, on a en Willy Pelletier quelqu'un qui pense que le fait d'être pauvre justifie toute action politique et qu'il faut être du côté des pauvres. Et c'est très respectable. Et moi, je comprends assez bien ça, à part que je ne suis pas d'accord sur la conséquence. Quant à notre ami Raphaël, c'est évident que son libéralisme, il veut l'imposer à tout le monde de manière très libérale.
Ah bah, je veux pas
et qu'il ne jamais lui donner de contenu. Parce que le contenu de son libéralisme, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'interdire.
C'est pas vrai, le contenu, c'est celui qui est donné par le bas, justement.
Or, la fameuse société libérale dont il parle au 18e siècle, elle a peut-être existé, je ne sais pas, en Angleterre. Non, mais c'est pas ça. Mais en France, il n'y avait aucun
non,
libéralisme.
Non, je ne veux pas accepter ça, il faut que je réponde.
Non, s'il vous plaît.
En France, il n'y avait pas du tout de société libérale au XVIIIe siècle. C'est, je vous rappelle quand même, l'exécution du chevalier de la barre, on peut donner mieux comme image d'une société libérale.
Raphaël, je vous contenais juste une seconde.
C'est Willy Pelletier, et ensuite vous allez pouvoir y aller. Willy Pelletier.
Il y a dans cette histoire de grandes absentes. Ce sont les femmes. Les femmes qui sont parlées, qui sont sans cesse parlées, et y compris les femmes qui, à un moment donné de leur vie, pas tout le temps, parfois, pour résister, prennent cet attribut du voile, et pas du tout d'ailleurs de façon nécessairement religieuse, en prenant tout l'islam avec. Ça, certainement pas. Ces femmes sont les grandes absentes, elles sont tues. Vous
France,
parlez
de,
en
de
leur place,
le voile pour
je ne
le
vous
résister.
Ai pas coupé, Madame Baudin.
Je ne vous ai pas coupé,
je ne parle pas non plus à votre place. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse à un moment donné les entendre, qu'il y ait une forme d'agora des femmes qui décident de porter le voile. Moi, j'ai comme étudiante énormément de jeunes femmes qui portent le voile. Ça ne pose dans mes classes avec, encore une fois, dans l'Aisne, qui est le département qui a le plus voté Marine Le Pen. Cela pose à l'université aucun problème. Ce sont les filles généralement les plus vives, les plus critiques et les plus armées à la critique. Et par ailleurs, pas nécessairement les plus religieuses, loin s'en faut. Alors, ces femmes qui sont sans cesse parlées par des bonnes âmes, par la bourgeoisie qui aime à se faire peur, parce que la grande peur soude la bourgeoisie, religuerée, disiez-vous, soude la bourgeoisie, oui, contre nous, et contre les femmes pauvres qui portent le voile, pas contre les femmes riches qui portent le voile. Je pense qu'il faut la questionner, et que tout ceci ne va pas de soi. Moi, je suis bien désolé, mais oui, il y a des LGBT qui se font tabasser parce qu'ils sont LGBT. Oui, il y a des femmes voilées qui se font insulter, y compris par les pouvoirs publics, parce qu'elles ont un fichu sur la tête. Moi, je suis breton. Dans ma famille, mes grands-parents, arrière-grands-parents, avaient sur la tête un fichu.
Mais ça n'a rien à voir.
Et si, ça manifestait une dignité culturelle, l'appartenance à un lieu. La coiffe bretonne, vous le savez peut-être, était différente suivant les cantons. C'était l'appartenance à un lieu.
Mais ça n'a absolument rien à voir avec la laïcité, Willy Pelletier.
Ça a tout à voir avec le port du voile.
Ça n'a rien à voir
avec
la laïcité.
On est en train de s'éloigner
du débat. Le port du voile n'est pas religieux.
Oui, c'est ce que je me tue à dire.
Absolument. On va revenir dans le débat dans quelques instants.
Tout de suite, je vous propose d'écouter Michael Kiwanuka. C'est un des artisans du renouveau de la soul made in England. Et on peut compter sur lui pour calmer le débat. You ain't the problem. Ça veut dire, c'est pas toi le problème.
Show me the feeling. Ah, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along. Don't hesitate. The problem.
Michael Kiwanuka, là, sur France Inter. Il sera en concert à la salle Pleyel à Paris le 23 novembre prochain. Retour au débat qui n'a pas cessé, hein, il faut bien le dire, pendant la chanson. Débat, c'est la laïcité est-elle menacée? On en parle ce soir avec nos invités, Jeannette Bougrab, Jean-François Colosimo, Raphaël Liogier et Willy Pelletier.
Tout à fait.
Et vous,
le mot qui est souvent invoqué par ceux qui critiquent les laïcs aujourd'hui, c'est de dire, au fond, à travers votre mise en avant de la laïcité, vous faites de l'islamophobie, vous êtes islamophobe. Alors, en fait, j'ai l'impression que les vrais islamophobes, aujourd'hui, ils ne viennent peut-être pas des rangs laïcs, mais de la droite populiste. Écoutons pendant quelques instants un extrait du récent discours d'Éric Zemmour.
Se battre, comme certains l'ont fait depuis des années courageusement, avec les vieux mots de la République, la laïcité, l'intégration, l'ordre républicain. Malheureusement, ces mots n'ont plus de sens. Immigration, intégration, délinquance, incivilité, vivre ensemble, et même assimilation, république, valeurs républicaines, état de droit, tout cela ne veut plus rien dire. Tout a été retourné, dévoyé, vidé de son sens.
Raphaël Liogier, vous êtes d'accord avec les paroles d'Éric Zemmour qui explique que la laïcité n'a plus de sens, que tous ces mots se soclent? Dans son livre, Jean-François Colosimo montre que la laïcité, c'est une religion française. Il dit que c'est le dernier état de la religion française. Il dit d'ailleurs que naguère creusée de la nation, la laïcité est dorénavant l'indice de son effritement. Mais est-ce que vous pensez que cette laïcité sur laquelle nous reposons, c'est du pipeau, comme dit Zemmour, ou c'est
au point,
fini?
Au point même d'être effacé de la prochaine charte, peut-être, du planning familial.
Je crois que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Éric Zemmour. En revanche, je trouve intéressant ce type de discours, qui est un discours, on pourrait dire, collapsologique, catastrophiste du point de vue social, parce qu'il manifeste cette espèce de refus, de remise en cause de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le libéralisme politique sur lequel, je rappelle, l'état de droit est fondé depuis le 18e siècle. Donc quand Jean-François Colosimo tout à l'heure me disait que il comprenait qu'en fait je voulais imposer mon libéralisme, là on est tout à fait dans le sujet. Je ne veux rien imposer. Le principe du libéralisme politique, c'est justement de permettre que les conceptions métaphysiques, qu'elles soient religieuses ou politiques, ou même non religieuses et non politiques, ou spirituelles purement, puissent se manifester librement dans l'espace public, sans contrainte par le haut. Or, aujourd'hui, dans une société qui croit tellement peu en elle-même, et là, on pourrait être d'accord avec Éric Zemmour dans ce sens-là, mais sans avoir en donner, avoir ce type de conséquences, qui croit tellement peu en elle-même, qu'elle se croit obligée de constituer des sortes de dogmes qu'elle croit juste par le haut. Pour moi, la métaphysique, la vraie métaphysique, c'est le contraire du dogme. Le dogme, c'est ce que j'appelle une métaphysique en état d'arrestation, c'est-à-dire un arrêt sur image, et en état d'arrestation, au sens, elle devient contraignante, elle peut devenir totalitaire. Je crois que le laïcisme, c'est une forme de totalitarisme, alors que la laïcité, c'est très exactement le contraire. C'est
Jean-François Colosimo. La philosophie a des belles formes.
Je ne suis pas dans l'autopublicité, mais non, la laïcité, bon, le mot, évidemment, on le sait, apparaît, c'est un néologisme, bien après, en 1880, ouais. Mais non, la laïcité n'apparaît pas en 1905,
tout à fait.
Non plus que la France a commencé en 1789 à la fameuse ère libérale présumé du 18e siècle qui
c'est tout dessus. On va revenir sur l'historicité du libéralisme en France.
Non, mais en revanche, là, il y a eu une attitude dès le départ de la constitution de ce qui va devenir la France, entre autres territorialement, à partir des Capétiens, dans ce rapport qui à ce moment-là se noue en Europe entre le pape et l'empereur. La France va dégager une voie qui est très précise et qui est celle de la séparation progressive du spirituel et du temporel, y compris à travers, et c'est très important, et c'est tout un droit particulier, et ce n'est pas du droit anglo-saxon, ce n'est pas du droit libéral, c'est du droit administratif, c'est une sorte de droit canon, comme à l'Église, qui est le droit de l'État, et ce droit, en fait, il donne véritablement une formule de la laïcité qui dépasse de loin...
C'est le germe.
Qui dépasse de loin toutes les batailles qu'on a aujourd'hui, qui montrent qu'on méconnaît notre histoire. Tout simplement.
Mais alors, la question que je posais, moi, c'était sur l'islamophobie, cette idée d'islamophobie. Willy Pelletier, est-ce que c'est pas abusif de désigner comme islamophobe tous ceux qui osent critiquer une religion?
Et qui ose critiquer, par exemple, que le planning familial renoncerait à la laïcité dans la prochaine charte?
Mais moi, je me reconnais absolument, et ça n'étonnera personne, dans le manuel indocile des sciences sociales, je crois que on montre à quel point la religion est l'opium du peuple. Mais on aura compris ici les termes du problème. Certains assimilent le fait de porter un voile sur la tête à une appartenance religieuse, même à une soumission, à une arriération, à une religiosité qui coloniserait tout.
Pourquoi c'est pas très agréable. Voilà.
Mais je ne sais pas, personnellement, je n'en porte rarement, peut-être toi,
un homme.
Donc, je ne sais pas, peut-être que oui. Tout au moins, dans les pays, dans les pays de la Méditerranée, cela peut se porter partout. Moi, je crois plutôt, pour être clair, que porter ce voile n'est pas nécessairement univoque comme geste. Et que oui, un parallèle doit être fait, bien sûr, avec les luttes de résistance pour les dignités. Porter le voile signifie, comme hier,
donc vous
ailleurs,
êtes pour le droit des bonnes sœurs à porter le voile.
La sélectivité. Attends, Christophe, parce que il y a quand même quelque chose d'important que je voulais signifier. Les bonnes sœurs n'ont jamais été tellement inquiétées, comme par hasard, dans le port de leur voile.
Mais là
n'est pas le problème. Porter le voile.
Quasiment civil en France.
Non. Vous vous faites peur tout seul.
De l'hôpital.
On les chasserait très peu.
Mais c'est pas vrai. Les expulsions des congrégations. Il y a eu des opérations militaires, mais par la suite elles ont été protégées.
Porter le voile, bien souvent, c'est dire, comme hier, ailleurs, cet acte de résistance, Black is beautiful, c'est dire, comme les LGBT, la pride. Eh bien, cette revendication de la pride, de la part de populations discriminées, harcelées, stigmatisées, mise en bidonville, elle est respectable.
Jeannette Bougrab, ça sera le mot de la fin. Jeanette.
Alors, moi, je n'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais à dire, moi en tant que femme arabe d'origine musulmane, fille de Harki, je dois être me lever en entendant des trucs pareils. Quand je sais que cette journaliste au Maroc a été condamnée à 1 an de prison ferme parce que elle a pratiqué pour débauche et avoir pratiqué un avortement, quand on sait que des jeunes femmes arabes comme Leïla Slimani viennent de signer une pétition pour dire qu'elles ont le droit d'avoir des relations sexuelles hors mariage qui est interdit par la religion, on se dit qu'entendre en France qu'on va nous appliquer ces règles et que les gens qui veulent nous appliquer ces règles-là, c'est inacceptable. La liberté et les laïcités et l'émancipation pour les femmes, c'est essentiel. Enfin, c'est essentiel. Comment se dire qu'aujourd'hui, moi j'ai 46 ans, ou se dire qu'aujourd'hui on m'explique que le voile qui a été revendiqué comme un signe politique et Roménie est devenu la nouvelle émancipation.
Mmh. Et ben, ça sera n'importe quoi. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Ça sera le mot de la fin parce que
ils veulent tous le mot de la fin.
Et c'est vous qui venez de l'avoir, Christophe Bourseiller. On va partir en live tout de suite avec Marion Guilbeault.
Nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion,
un foulard autour du cou.
Elle n'est pas voilée, votre invitée.
Pourtant, elle n'est pas voilée. Mais vous allez voir, là, il y a une toute petite relation très lointaine avec notre débat, avec une voix qui n'est pas tout à fait inconnue chez nous. C'est celle de Clémence. Clémence, elle était chanteuse, musicienne du groupe La Femme pendant 9 ans. 9 ans de tournée dans le monde entier avec cette bande de psyché yéyé énervée, 2 albums superbes. Mais il était temps de prendre un tout petit peu de recul pour elle. Elle a pris la direction de la montagne, à côté d'Agadir, pour se ressourcer. Alors, le Maroc a souvent fait du bien aux artistes. Les Stones, Hendrix, sont partis chercher l'inspiration dans la trance des Gnawa, des Sawira. Et Clémence, elle n'était pas partie au départ pour triper, pas du tout. Elle était partie pour faire un potager et méditer. Mais voilà, là-bas, entourée de plantes, je ne sais pas quelles plantes et d'animaux, elle s'est autorisée à une autre musique moins frénétique, plus féerique, avec des tempos beaucoup plus lents, des climats plus baroques, des instrumentaux lumineux, c'est ce qu'on entend derrière moi, là, qui tourne, et des mantras qui célèbrent le soleil, le désert, la terre. Alors, avant de découvrir une de ces chansons en live, je voulais demander à Clémence, aka Aja, ça vient d'où ce terme Aja ?
Eh ben, Aja, ça veut dire la chèvre, en fait.
La chèvre, en quelle langue ?
En indien, en hindou.
Ouais, et pourquoi avoir choisi cette chèvre ?
Bah parce que j'ai la chance d'habiter dans la campagne marocaine, dans les montagnes, où je suis entourée de chèvres tous les jours.
Qui montent aux arbres ?
Qui ont aussi mangé tout mon jardin une fois.
Ouais.
Faut que je recommence à zéro.
Vous faites des expériences à chaque fois.
Mais voilà, c'est un animal que j'affectionne beaucoup.
Il y a un lien avec votre musique ?
Non, pas vraiment, non. Non, c'est plus...
Bon, on va découvrir la musique de Aja avec Dune solitaire. C'est à vous, Aja.
Mmh.
c'est son premier EP solitaire, ça sort demain. Et du coup, Aja vous invite à faire la fête demain soir au Poste à Paris. Elle sera aussi à la Maroquinerie, toujours à Paris, le 17 octobre, en première partie de Lucie Antunes. Et elle sera au Bar en Transe à Rennes, ce sera au mois de décembre. La prise de son ce soir, c'était Nos Deux Gnawa, Guillaume Roux et Charles Pellabon. Merci
messieurs. À tous nos invités.
Et merci beaucoup, Aja.
Merci à tous nos invités. Jeannette Bougrabe, Lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent, c'est paru aux éditions du Cerf. Jean-François Colosimo, La religion française, 1000 ans de laïcité, toujours aux éditions du Cerf. Raphaël Lieugier, Manifeste métaphysique, ça se retrouve aux éditions Les liens qui libèrent. Et enfin, Willy Pelletier, Manuel indocile de sciences sociales pour savoir résistant, c'est aux éditions de La Découverte. Merci à vous quatre. Merci Christophe Bourseiller. C'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV la suite, pour plus de France Inter. Mais lundi, qui aura-t-il au programme?
Vous êtes en pleine forme. Je mourrai avant vous.
Bah, j'espère bien.
La vieillesse. Le dernier privilège. On vous attend sur le sujet, vous pouvez bien sûr laisser des messages, vos questions, vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. En live, Marion, lundi.
On reste dans l'Orient avec la pop de Mohamed Lamouri.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. La programmation et la préparation, c'est toujours Virginie Rosic et Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal pour plus de jazz. Ce soir, direction New York. Dernier épisode de la série Give Me Jazz. C'est au programme du NRV La Suite, France Inter+, bien sûr. À tout de suite.
Rendez-vous.